1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking, bro?
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te laisserai mon test.
Eh oui, chers auditeurs du 99.9, vous êtes bien sur votre émission hebdomadaire Les Décadrés. On parle de cinéma, d'audiovisuel et de jeux vidéo. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va très bien. Et vous ?
Bah, ça va très bien. Alors Benjamin dit bonsoir, mais en fait c'est bonjour hein, parce que nous sommes
après-midi. Oh, mais j'ai envie de dire bonsoir.
Ensuite, nous avons Ange. Ange, comment vas-tu ?
Bonne matinée. Ça va très bien et vous ?
Ça va très bien. Bon appétit à ceux qui nous écoutent en mangeant. Et nous avons un nouvel invité aujourd'hui, Guillaume de l'événement Popcorn Reborn.
Bonjour.
Merci Guillaume. Alors Guillaume, aujourd'hui tu es là pour nous parler. Enfin, on a profité de ta venue ici pour parler d'un festival qui a lieu il n'y a pas longtemps sur la place des Héros.
Oui, un petit événement culturel qui réunit quelques personnes de temps en temps.
C'est exactement ça. Donc la Racine Festival. C'est aujourd'hui, ça. Ce sera une émission consacrée à la Racine Festival. Guillaume, qui travaille au Cinéma Vida, va nous faire quelques petites éclaircissements sur l'événement. Mais tout d'abord, nous allons laisser notre ami Benjamin.
Oui, faire une introduction.
Faire une magnifique introduction.
Oui, ce sera très très court parce qu'on a tellement de choses à dire. Donc, on a eu la 17e édition de l'Arras Film Festival qui s'est déroulée donc récemment. Ça s'est terminé le dimanche 13, il me semble. Ça a démarré le 4. Et donc, c'était à Arras, à la fois au Cinéma Vida d'Arras et au Casino. Et sur la place, la grande place, avec le, comment on dit, le chapiteau.
Le village chapiteau.
Donc avec le village où on avait tout un tas de rencontres, des soirées, des concerts, il faut le dire. Et ça s'est plutôt bien passé, cette 17e édition. Il y a eu apparemment beaucoup plus de monde encore que l'année dernière. Mm-hmm. Donc ce qui est génial, c'est que c'est un festival qui grandit énormément. Et ce qu'on espère, c'est avoir une 18e édition. Et je crois même qu'ils avaient parlé d'en avoir, je ne sais plus, 60 éditions, 50. Mmh. On est
en tout cas, le bail a été renouvelé jusqu'à la 20e édition sur certains actés déclarés devant tout le monde.
Donc, c'est déjà une excellente nouvelle. Ouais. Donc du coup, ça a été l'occasion d'avoir des découvertes qui nous venaient donc, de l'Est, donc de l'Europe de l'Est.
Ouais.
Mais aussi donc, de revoir des films d'évasion et des films sur la guerre d'Espagne, donc par rapport à la perspective. Et on avait de tout, hein. Faut pas croire que c'est parce que c'est la guerre d'Espagne qu'on pouvait pas avoir du fantastique. Au contraire, on avait Les Chines du Diable de Del Toro et du même réalisateur, Le Labyrinthe de Pan, qui est un formidable film. Et on avait aussi tout un tas d'avant-premières de films français, donc notamment le film avec Omar Sy, Demain Tout Commence, ou encore Un Jour Mon Prince, c'est pas ça?
C'est ça, ouais.
C'est ça, ouais.
C'était le film de clôture.
Voilà, donc il y a eu un palmarès qui a été déclaré le dimanche 13.
Oui.
Et Roue Libre, qui est un thriller hongrois.
Croate.
Il me semble qu'ils étaient hongrois. Enfin, ils ont écrit hongrois, il me semble, dans leur fiche.
D'accord, ils sont peut-être trompés.
Donc thriller hongrois qui, avec beaucoup d'humour, qui suit un... Des personnes en situation d'handicap qui vont s'engager dans la mafia. Et donc il a raflé pas mal de prix, il me semble. Donc coup de cœur du jury, prix des jeunes région de France, prix du public et encore un autre truc, mais il y avait encore un prix.
En tout cas, c'est un film qui a fait
c'est un film qui a fait son effet. Et du coup, Guillaume, peux-tu nous parler de ce festival?
Alors, à titre personnel, moi, je vais vous parler de la section que j'ai fréquentée de manière la plus assidue, à savoir le cinéma français, étant donné que le festival s'est mué quand même au fil des années comme une certaine vitrine pour l'actualité et le futur du cinéma français, dans la mesure où énormément d'avant-premières, excusez-moi, sont consacrées au cinéma français. Et ce qu'on peut dire cette année, c'est qu'à ma grande surprise, moi qui ne manque pas une occasion de cracher dans la production nationale, eh ben le bilan est bon, et je dirais même plus, très très bon. Dans le sens où on a souvent fait le grand écart entre des films de très très haute qualité et des films difficilement regardables. Et bizarrement, il n'y avait pas beaucoup d'entre-deux, pas beaucoup de trucs qui étaient... pas beaucoup de demi-molles en fait. Ou alors c'était très très haut et très très dur, ou alors c'était très 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 ras des pâquerettes et très très mou. Et en l'occurrence, c'est qu'il y a eu plus, il y a eu plus justement d'excellentes surprises.
Oui, mais on en avait parlé ensemble, et ce qu'on avait pu en dire avec Adrien qui était là la semaine dernière, c'est que... ou il y a deux semaines, non, il y a deux semaines, pardon.
Il y a deux semaines, ouais.
Donc c'est que le au niveau des films français, le festival a un peu mal démarré, mais justement il avait bien terminé, quoi. C'était un happy end au final.
C'est ça, en plus, ce qu'on voit, c'est que tous les défauts habituels qu'on a tendance à reprocher au cinéma français, etc., ont l'air d'avoir été complètement... pour une bonne partie des films de la sélection, ont l'air d'avoir été évacués. C'est-à-dire qu'on a souvent dit qu'il y avait eu une perte de savoir-faire, un truc qui s'était plus transmis entre, grosso modo, la fin des années 80 et les années 2000, comme si, grosso modo, le cinéma français s'était replié sur le film d'auteur tel que la caricature qu'on s'en fait, ou alors les grosses comédies calibrées pour le prime time. Et là, c'est qu'on voit, il y a enfin un vrai savoir-faire qui revient à la surface. C'est-à-dire que même dans les films qui sont un petit peu bancals, je pense qu'au film de Lucien Jean-Baptiste, Il a déjà tes yeux, le film d'ouverture avec Merci, Demain tout commence, c'est que même dans ces films qui sont pas forcément très aboutis, on voit des vraies intentions de cinéma, des vraies velléités esthétiques et un vrai travail au niveau du récit. Et le fait que ça soit pas abouti, pour moi, vient presque en retrait par rapport à ce constat-là, qui fait que, voilà quoi, on a eu des très bonnes surprises à ce niveau-là. Surtout dans la comédie qui est hyper représentée en France, mais pas forcément très bien servie. A l'inverse, on a eu aussi des films comme Ouvert la nuit d'Edouard Baird ou Un jour mon prince, le film de clôture, qui sont de vraies propositions de cinéma, complètement originales et très, très à rebours de ce que les conventions nationales peuvent poser, et d'excellents films dont je parlerai après.
Guillaume, merci pour cette introduction justement au cinéma français. On va en reparler dans quelques instants, mais avant, on va se faire une petite interlude musicale. Benjamin, tu vas nous proposer quelques sons ce
donc
soir.
Une petite pause musicale avec un thème du Labyrinthe de Pan, donc réalisé par Guillermo del Toro, et la composition est de Javier Navarrete, au pluriel.
Navarrete.
Ouais.
On écoute ça.
C'était un air du Labyrinthe de Pan réalisé par Guillermo del Toro en 2006. Donc soit après son premier Hellboy, faut le dire, parce que c'était un retour aux sources.
Exactement, ouais.
Donc on va revenir sur notre discussion sur l'état du cinéma français, notamment via le prisme du festival, de l'Arasfilm Festival, édition 2016. Ouh, je fais le dire 2017.
Ouh là là.
Donc allons-y.
Voilà, ça c'est l'introduction, maintenant vous vous débrouillez.
Ouais, c'est ça.
Guillaume, justement, tu parlais de ce nouvel essor du cinéma français. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué pendant ce festival? Même vous, les autres, mes amis décadrés, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont marqué?
Alors, titre personnel pour ce qui est du cinéma français, j'en retiendrai 4.
D'accord.
On a déjà d'abord Carole Mathieu avec Isabelle Jani qui a été diffusée vendredi sur Arte et qui m'a vraiment foutu une belle baffe. Ensuite, il y a eu La Mécanique des Ombres, un excellent thriller parano-complotiste avec François Cluzet, qui a été une belle surprise aussi. La Confession de Nicolas Boukrieff, qui tente un équilibre assez osé et assez réussi, je trouve, même très réussi, entre le film très dense, très littéraire français à travers les dialogues, et quelque chose d'extrêmement mis en scène qui touche constamment au point de vue des personnages et à leurs émotions. Et enfin, c'est pas un film français à proprement parler, mais j'en parle parce que ça m'a foutu une baffe. C'est Noce, qui pour D'accord. le coup est un film belge, qui est un film belge, et qui est juste une baffe, une momie mentale, quoi. C'était un vrai choc émotionnel, quoi.
D'accord, Guillaume. Bah, écoute, moi, je vois ce que tu veux dire. Justement, tu parles de cet essor esthétique du cinéma français, quelque chose qui vient se réaffirmer. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance avec les derniers films. On est surtout basé, enfin. Une partie du cinéma français, la partie la plus entre guillemets productive, celle qui est plus reconnue par les gens, c'est les vieilles comédies franchouillardes à la camping, tout ça. Et Le Marquis, par exemple, si c'est un bon exemple aussi, le film Le Marquis avec Franck Dubosc et Charbonnier, ça représente bien cet humour un peu gras. Et
le film avec Franck Dubosc, ce sont des bons exemples.
Oui, exactement. Mais après, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a une évolution. Et justement, il y a un film que j'ai vu pendant un film festival, c'est le film Primaire. Alors, c'est le film d'Hélène Angèle avec Sarah Forestier qui avait prêté sa voix dans Gus, Petit Oiseau, je ne sais plus trop quoi. C'était un film d'animation et qui était plutôt sympa d'ailleurs. J'ai passé un très bon moment. Et puis elle a joué aussi dans Gainsbourg, elle a joué le rôle de France Gall, je crois. Sarah Forestier. Puis il y a aussi Vincent Elbaz de La Vérité si je mens ou du Péril jeune. Et aussi qui était dans Quasimodo del Paris, je viens de m'en rappeler, du coup ça me fait toujours rire, j'aime beaucoup ce film. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ce film, il représente un peu ce que tu me dis là, mais en même temps, la sensation que j'ai eue avec beaucoup, enfin que j'ai avec le cinéma français et plus particulièrement ce film-là, c'est en fait, j'ai l'impression de voir pas un film, mais un téléfilm de très bonne qualité, en fait. Avant, voilà, j'expliquais un peu ça parle de quoi Primaire. En fait, l'histoire de Primaire, en gros, c'est l'histoire d'une professeure des écoles qui s'appelle Florence, je crois, qui est complètement chevronnée à fond dans son travail. Elle va rencontrer un élève qui s'appelle Sacha, un élève en difficulté. Elle va vouloir l'aider coûte que coûte, et elle va complètement délaisser son fils et même remettre en cause sa vocation. C'est un film qui est plutôt beau, en fait. Moi, au début, j'avais du mal à accrocher avec les personnages, mais en fait l'empathie pour les personnages justement se crée au fur et à mesure. On découvre ce qu'ils sont vraiment, quels sont leurs objectifs, les enjeux, ce qu'ils attendent de la vie. Donc il y a quelque chose de très humain, et techniquement c'est, en termes d'image c'est très beau, en termes de montage collé par rapport à la narration c'est très cohérent, même si on a l'impression qu'on ne sait pas s'ils veulent garder le côté contemplatif ou l'action est freinée à certains moments. Mais voilà, en fait la sensation que j'ai sur ce film et que j'ai eu sur d'autres, c'est que j'ai l'impression de voir au final des espèces de téléfilms adaptés au cinéma. C'est comme le film Cigarette et chocolat chaud qui est excellent. J'ai bien aimé ce film personnellement. Moi honnêtement j'ai bien aimé ce film, mais je dirais rien de plus. On a le droit d'avoir des goûts tous différents, voilà. Mais en fait, j'ai plus cette sensation-là de voir des téléfilms M6 très très bien produits.
Plutôt TF1, je dirais.
Ouais, TF1, mais très très bien produits, mais au final, qui pour moi n'arrivent pas à décasser. J'arriverai pas à les situer ailleurs que sur un petit écran, en fait.
En fait, dans le cas de Cigarette et chocolat chaud, je serais beaucoup moins indulgent que toi. En revanche, pour Primaire, même si effectivement, je trouve qu'en termes de mise en scène, les parties prises sont relativement limitées et empêchent le film de véritablement décoller. Il y a des envies de récit. Il y a des envies de récit qui veulent donner de l'ampleur, de l'importance à la trajectoire des personnages. Et je pense que quand on parle de téléfilm, c'est ça qu'il faut distinguer.
Ouais.
On peut parler de téléfilm en termes de mise en scène, ce à quoi Primaire s'adapte plutôt bien, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, en termes de récit, c'est-à-dire qu'en général aussi ce qu'on désigne la qualité des films, c'est des narrations qui sont relativement recroquevillées sur des petites problématiques, mm-hmm. et effectivement c'est un truc qui a foutu le cinéma français en l'air pendant des années. Et ce qu'on a pu constater avec le film de festival, et c'est là que je défends quand même un peu Primaire, c'est qu'il y a justement des envies de récits qui sont plus larges que ça,
oui.
qui veulent dépasser leur sujet pour atteindre des problématiques, déjà pour donner de l'ampleur, de l'écho aux émotions de leurs personnages, mais aussi atteindre des problématiques universelles. Et c'est pour moi un trait de caractère qui a parcouru la plupart des films français que j'ai vus durant ces 10 jours de festival, en particulier les titres dont je vous ai cité tout à l'heure. Et je pense que c'est la grosse évolution des mentalités qui devait se faire et qui est en train de se faire, elle est vraiment à ce niveau-là, quoi. C'est que non seulement on est enfin un retour à une certaine forme d'exigence en termes de mise en scène, mais aussi en termes narratifs, on veut raconter des trucs et on veut le faire au moins à travers les moyens d'expression du cinéma, et on s'en donne les moyens de le faire, quoi. Et c'est ça, et voir ça pendant ces 10 jours, et bah franchement ça m'a redonné la foi, quoi.
Et d'ailleurs justement la réalisatrice, enfin qui est aussi productrice, scénariste, elle avait, le seul film que je connais d'Hélène Angel, c'est Propriété interdite, pas un film qui m'a vraiment marqué, mais en fait c'est une femme qui crée plus ou moins ses films de bout en bout, elle scénarise, elle réalise, elle fait aussi une partie de la production, qui disait justement qu'elle avait quand même mis 2 ans de recherche sur le terrain dans des écoles pour écrire son film. Il y a aussi ce truc de justement, documentation, c'est pour ça. En même temps, voilà, comme je disais, Primaire, c'est vrai que j'ai cette sensation de téléfilm. Et en même temps, comme je m'étais dit à la sortie, c'est vrai que c'est pas si mal. Il y a une recherche de narration, il y a de l'épicité. Sur la fin, on part plus dans un espèce de lyrisme avec le personnage qui est complètement dépassé par les événements et qui ne sait plus comment agir. Mais il y a vraiment l'envie, oui, de faire évoluer, quoi.
Après, quand j'ai vu Demain, tout commence... Moi, pour moi, c'était un téléfilm TF1 du niveau de Camping Paradis, dans le sens où c'était pas formidable, c'était beaucoup trop cher. Je pense qu'il y a énormément d'argent là-dessus, et c'est pas cinématographique. Je saurais pas comment l'expliquer. C'est que c'est pas très bien réalisé. Parfois, il y a de très beaux moments. On en a parlé en plus avec Guillaume.
C'est un pur produit télévisuel. C'est un film qui passera sur TF1.
C'est produit par TF1 et Canal+, en plus. Donc c'est...
Mais là, pour le coup, je suis vraiment pas d'accord avec toi, parce que, encore une fois, effectivement, Demain tout commence, je trouve pas que ça soit, qu'il soit abouti sur tout ce qu'il essaie d'entreprendre, mais il entreprend vraiment des trucs. Je trouve qu'il est, rien qu'en en essayant d'être hyper dense, parce que c'est un récit qui est hyper dense, qui essaie vraiment d'harmoniser, et il y réussit pas tout à fait, différentes sous-intrigues qui pourraient quasiment constituer des films autonomes les uns avec les autres, quoi, tu vois. Et visuellement, t'as quand même une volonté de faire quelque chose.
Il y a une volonté, mais, c'est le truc, c'est que voilà, il y a
pas dans le niveau du téléfilm,
il y a toute une histoire du cinéma. On est quand même en 2016, et je me dis que le cinéma français, enfin voilà, il connaît une certaine crise, je dirais, mais comme tu dis, il y a un renouveau, mais il faut qu'il soit beaucoup plus impactant, quoi.
Bah, le film essaie d'être impactant vraiment, et en plus il essaie pas de le faire avec des moyens putassés qui, comme Cigarette et Chocolat Chaud, peut le faire, par exemple, tu vois.
Ouais, enfin, il joue quand même au niveau du suspense sur la mort, sur la maladie, il sait le faire.
C'est un truc qui reste vraiment en filigrane et qui parcourt le film sans que le mec il insiste trop dessus, quoi. Il a mérite d'être discret à ce niveau, quoi.
Les esprits commencent à se suspendre. Non, mais c'est bien, on rentre dans le débat, c'est dommage qu'on ait juste pas trop le temps. Si on a le temps, on reprendra la conversation après, c'est très intéressant ce qui se dit, et c'est vrai. Après, je pense que dans les deux cas, vous avez plus ou moins raison. Mais ce qu'il faut, c'est garder de l'espoir, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution.
Il y a un renouveau, et même
ça va se faire.
Mais le truc, c'est qu'on voit tellement de belles choses maintenant à la télévision. Je vois sur Arte ou quoi des choses avec peu d'argent, mais qui sont superbes, qui pourraient arriver au cinéma.
Bien sûr.
Et qu'on se dit que parfois, quand on voit des films de cinéma, c'est un peu pauvre.
Ouais, mais ça c'est un constat qui s'applique aussi au cinéma français.
Bien sûr, on est bien d'accord.
On va enchaîner donc avec un petit interlude musical.
Nouvelle interlude avec la musique du film Papillon de Franklin G. Schaffner, donc avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. qui va reprendre. C'était formidable. C'était un très beau fondu, Ange. Et
merci Antoine de cette introduction.
Et donc c'était la musique, donc la bande son de Papillon, composée par Jerry Goldsmith, qui a aussi été attaché à d'autres films de Schaffner en tant que compositeur, comme La Planète des Singes ou encore Patton.
Les gens n'ont rien entendu de ce que j'ai dit.
Non.
Si, ils ont tout entendu.
Non, mais c'était drôle.
Ils ont vu essayer de me crier dessus après à travers la vitre. C'était très beau. C'était magnifique. Bon, alors, à part si vous avez encore des choses à ajouter sur Demain tout commence, qui est le seul film français que j'ai vu de tout le festival, parce que au total, j'en ai vu exactement 3 films pendant le festival et qui faisaient partie du festival. J'ai vu Chicken Run, j'ai vu The Giant, qui était un très bon film, un très beau film, une belle poésie, et Demain tout commence, qui pour moi n'est pas si raté que ça, on va dire. Il n'y a pas raté, il y a des très beaux effets, même s'il y a certains trucs que j'ai trouvé très lourds et que j'ai pas vraiment apprécié, quoi. Mais sinon, il y avait le festival, mais il y a aussi d'autres films qui sont sortis pendant cette période, et je suis allé en voir. J'aurais bien voulu savoir aussi si vous en avez vu.
Ouais,
de ces
moi
films
j'en ai
sont
vu
sortis
un récemment.
Ah, moi j'ai
fait voir les animaux fantastiques. Ah. Ouais.
Bon, c'est piste, pardon.
Alors, mais en fait, voilà, moi, en fait, non, le film, je lui en veux pas. J'ai.
C'est rigolo parce que comment tu crois que tu m'avais dit quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, non, mais le film, je lui en veux pas. Il est ce qu'il est, voilà. C'est un film, c'est un gros blockbuster. Hein. Il y a, moi, j'ai pas attendu, j'attendais pas grand chose en allant le voir et j'ai bien fait de m'attendre à rien. Mmh. Non, moi, ce qui me saoule un peu plus, c'est la communauté pro Harry Potter qui affirme que ce film est excellent.
Ouais, j'ai vu plein de
alors que les Harry Potter.
Les Harry Potter, il y a
pardon,
un
les Harry Potter, pardon. Oui, les Harry Cover, pas les Harry Cover. Harry Potter, c'est un film qui a. C'est une saga complètement et ça a posé des bases à un univers bien particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers Harry Potter, personnellement. Sur la fin, ça me saoulait un peu, mais ça restait pour moi pas ça parce que la narration était très bien. Mais les animaux fantastiques, on est voilà, on est sur des personnages un peu, enfin sur lesquels on a du mal à s'accrocher, à part l'un des personnages qui suit, qui est plus un sidekick rigolo, on va dire, qui est là pour servir le comique du film. Mmh. On a du mal à s'accrocher au personnage. C'est très attendu.
Ça t'a donné envie d'acheter des poupées ou pas des peluches, parce qu'apparemment ils vont vendre des figurines, des poupées de,
ils vont faire
de
un
bêtes.
Sorti de ça, j'entendais des gens qui faisaient oh mais il était trop mignon.
Ouais, bah c'est ça, c'est ça que j'ai pu lire.
Non, mais puis animaux fantastiques, bon, on voit 9 animaux quoi. Fantastique, oui, mais on n'est pas.
C'est pas un
non, mais le film, est plutôt enfin. Le dénouement est plutôt convenu, il y a une petite surprise à la fin. Colin Farrell, moi je le trouve excellent comme à son habitude. Hein. C'est toujours le meilleur, Colin. Colin, je t'adore, je t'aime. Voilà. Et l'acteur principal qui joue Robert Dragono, qui jouait dans Danish Girl.
J'en peux plus. Je ne peux plus voir Eddie Redmayne quelque part.
J'aime beaucoup, hein, mais dans celui-là, il ne marque pas. Quoi.
Non, non, mais de toute façon, là,
c'est trop effacé.
Il a l'air absent. Ouais.
Il est très effacé.
C'est l'acteur oscarisable parfait. Quoi.
Mais,
ça n'empêche pas d'être bon, mais là il,
il peut être bon.
Mais il est trop effacé dans le film et c'est plutôt décevant.
Tu parlais d'un truc, tu disais ouais la communauté pro Harry Potter pardon disait que c'était excellent, mais c'est plus inquiétant que ça, c'est que même énormément de critiques presse en France et les spectateurs trouvent ce film excellent. Non. Donc c'est vachement inquiétant.
Moi, je trouve ça inquiétant. Et puis, c'est surtout de dire que c'est l'héritier d'Harry Potter. C'est pas vrai parce que Harry Potter, comme je disais, a construit vraiment quelque chose d'ahurissant en termes d'univers. J'ai beaucoup de respect pour cette saga. Je suis pas un fan à contester, mais j'ai beaucoup de respect pour cette saga. Et dire que c'est l'héritage. Enfin, franchement, je trouve pas que c'est lui rendre hommage.
Il reste à lire le livre, je pense aussi.
Oui, mais le livre apparemment est différent. Moi, je l'ai pas lu, je vais pas m'avancer. Apparemment, le livre c'est un espèce de manuel en fait.
D'accord. Bah oui, c'était ça à la base. Les animaux fantastiques, c'était l'adaptation du livre que Hagrid utilise. Enfin, qu'ils ont en cours en fait pour étudier les animaux avec Hagrid. C'est exactement ce truc-là.
Non, c'était juste pour dire par rapport à ce que tu disais que beaucoup de critiques se montrent excessivement bienveillantes vis-à-vis du film. Mais pour moi, c'est la même problématique qu'on constate depuis 3-4 ans, à savoir que comment ça se fait que les trucs comme Marvel, DC, tout ce qui peut sortir peuvent susciter autant d'indulgence alors qu'il y a 10-15 ans, des œuvres qui étaient super bien construites se mangeaient
le shit tant pas possible. Comme je t'ai dit, tu vois, pour Marvel, je pense que c'est vraiment à nuancer, parce que quelque chose comme Civil War des frères Russo s'en est pris plein la figure, alors qu'un Avengers 1 qui était quand même vachement classique, qui a énormément vieilli, qui voilà, c'était pas formidable, mais ils en ont fait une apologie, quoi.
C'est ça.
Non, mais clairement, mais en plus, les animaux fantastiques, enfin, tu prends quelque part, c'est Men in Black dans les années 30 avec la magie à la place des extraterrestres. Non, mais clairement, je rigole pas, c'est clairement ça. Mais tu prenais la manière dont Men in Black était foutu, était pensé, était conçu, etc. Ouais. C'était du travail d'orfèvre, mais vraiment, quoi. Et c'est ce qui fait que tu tiens super bien.
Tu prends BPRD, Hellboy, quoi.
Hellboy, exactement. Ouais. Mais celui-là, par contre, c'est.
Sinon, en revenant sur Marvel, j'ai vu aussi le Docteur Strange qui m'a laissé assez sceptique en fait. Ouais, par rapport au personnage, bah, comme tu l'avais dit dans une autre émission, on parlait de Docteur Strange. Ouais. Voilà, c'est beaucoup du personnage de Tony Stark. Après, je connais pas assez l'univers de Docteur Strange pour savoir si le personnage est vraiment comme ça.
Non, il est très sérieux. C'est un sorcier, quoi.
Dans le comics, la personnalité de Strange avant qu'il se devienne. Le magicien qu'on connaît, c'est un salopard, hein, un peu corruptible, encore plus cynique, je trouve, plus sombre. Mais justement, la métamorphose, elle en est que plus prenante.
Les images sont plutôt fantastiques.
Ah oui, c'est beau, hein. Je l'ai pas vu en 3D. Mais
par rapport à la BD, c'est très bien. La 3D est plutôt chouette, surtout avec les images très très belles.
C'est très psychédélique. Ah oui, c'est ça qui est très bien. Vas-y. Et sinon,
Guillaume.
À part si Guillaume a quelque chose à dire.
Non, c'était juste pour dire que le côté psychédélique qui aurait pu que l'univers aurait dû véhiculer, moi je l'ai jamais ressenti parce que t'as l'impression que finalement ils essaient de faire rentrer un truc aux possibilités hyper fascinantes dans un cadre qui est hyper
serré,
qui est celui de Marvel. Au bout de 10 minutes, ils ont grillé toutes leurs cartouches, absolument toutes.
Quand tu vois la BD, elle est. Tu plonges dans un truc, parfois tu comprends rien. Et c'est ça que j'aurais voulu, c'est que tu sois paumé, mais complètement dans ces univers fantastiques. Quoi.
Non, mais après, je pense que, comme je disais, la production de Kevin Feige, système de production et de narration de films qui rentre en jeu énormément, je pense.
Après, je pense aussi, ce qui rebute un peu au niveau des effets spéciaux et trucs dans ce genre-là, c'est que Inception est passé avant. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils ont refait exactement les mêmes effets.
Pour certaines choses, on est au début de Paris, je crois que
Quand tu le vois, tu fais on l'a déjà vu, quoi. Donc, du coup, on n'est pas vraiment émerveillé.
On l'a vu très corporel, avec des acteurs qui faisaient les cascades et peut-être pas avec autant d'effets numériques.
Non, puis je pense qu'en plus, Inception, c'était déjà un film qui était hyper réussi, mais qui était très rationnel et pragmatique dans son approche des rêves et de la conscience, tu vois. Et le problème, c'est que le fait que Doctor Strange qui soit un univers psychédélique qui ne arrive même pas à dépasser ça.
Et donc sinon là juste avant de se quitter sur une dernière petite musique préparée par notre ami Benjamin, j'avais juste un dernier conseil par rapport à un film qui vient tout juste de sortir français.
L'histoire de Max et Léon.
Voilà, tout à fait. Alors le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ce film, c'est regarder la bande-annonce. Voilà, et on vous laisse maintenant donc, avec la musique de
Chicken Run, composée par Harry Gregson Williams, un des élèves de Hans Zimmer.
Et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Guillaume.
Mais de rien.